Ouais.
Ah. Si vous connaissez Nicolas, les Montrougiens le connaissent peut-être, c'est le concepteur, l'inventeur, le propriétaire, si vous voulez, de la boutique du futur qui se trouve rue Perrier, donc à Montrouge. Et Nicolas a inventé toutes sortes d'objets censés enrichir et simplifier tout ce que vous voulez, embellir votre vie quotidienne. Ça, il va nous en parler, c'est donc un créateur. Un créateur qui a ceci de particulier, c'est qu'il a décidé de prendre sa retraite. Tu m'en rappelles l'âge, t'as 29 ans.
Oui.
Voilà. C'est quelqu'un qui a décidé de prendre sa retraite à 29 ans. Alors peut-être que je l'ai compris, parce que moi j'avais décidé de prendre ma retraite à 18 ans, ce que j'ai fait. Ça veut dire qu'en gros, on fait ce qu'on aime, c'est la retraite, on fait ce qu'on aime. L'inconvénient, c'est que quand même, quand on prend sa retraite à 18 ou à 29 ans, on n'a pas forcément cotisé énormément. Il faut quand même un petit peu travailler, faire des choses pour apporter de l'argent. Mais quand même, on a pris cette décision, qui est plus importante qu'il ne le paraît. On va essayer. Enfin, on va faire ce qu'on aime et essayer d'en vivre. Ce n'est pas toujours facile, mais ce n'est pas forcément impossible non plus.
C'est vrai, hein, c'était l'objet de mon premier livre, c'était de quitter la vie du salariat pour consacrer le reste de ses jours à ce qui nous a toujours, ce qui nous a toujours plu. Et du fait de ce changement, je me suis lancé donc dans la vie de designer. J'ai abordé la question de la créativité, qui est le sujet d'aujourd'hui, puisque on va essayer de placer le rôle de l'imaginaire dans le processus du design et dans le processus de l'invention. Alors oui, ça s'est affiché. Et j'appuie sur le bouton là. J'appuie sur le bouton pour ça.
Tu poses la question à la mauvaise personne. Et je veux bien que tu appuies sur le bouton.
Voilà, alors ça c'est voilà mon voilà un peu mon histoire, hein. Je suis né l'année révoltante et j'ai créé Stickforce en 1995. En fait, j'étais ingénieur dans les télécoms et du jour au lendemain, j'ai décidé de consacrer ma vie à ce que j'ai toujours aimé faire, c'est-à-dire la création industrielle. Et de fil en aiguille, j'ai ouvert la boutique du futur ici à Montrouge en 2006 et j'ai écrit deux livres, ma retraite à 29 ans en 2011 et il sort la semaine prochaine, mais un peu aujourd'hui aussi, mon rêve n'est pas d'aller ailleurs, un précis de créativité à l'usage des déçus du cannabis qui va nous ramener sur le sujet d'aujourd'hui. Alors j'ai mis ici des exemples de réussite de produits qu'il
a inventé lui-même. Ouais, hein, ce sont les objets inventés par Nicolas.
J'ai inventé. Alors je commence toujours par les bonnes nouvelles, hein, c'est-à-dire les best-sellers. On a une cuillère avion, une vache pour racler le beurre, un porte-sac et puis un cyclospace. C'est un véhicule que vous avez peut-être croisé dans Montrouge.
Le cyclospace a eu tellement de succès qu'il a été
Il a été emprunté sans doute par un collectionneur jaloux. Et ce que je tenais à préciser sur ces produits, c'est l'extrême simplicité des matériaux, des formes et des fonctions auxquelles je suis extrêmement attaché, car je considère que l'acte créatif consiste à faire le plus simple possible. Et de réduire la forme et la fonction à leur plus simple expression. Alors c'est toujours plus classe quand je présente ça à des clients de présenter dans le produit dans les médias. Alors tout de suite, les produits ce sont les mêmes produits, hein. Ils prennent une forme plus spectaculaire. Mais encore plus intéressants sont en fait les échecs. Et je crois que ça, le rapport à l'échec dont on parle souvent, mais en fait qui est peu dans les faits, est une question très importante. Là, on a des produits qui se sont vendus parfois en 5 ou 6 exemplaires. Vous voyez, alors que sur la page précédente, la cuillère avion s'est vendue à 215 000 exemplaires. Donc, qu'est-ce qui va faire que deux produits finalement pas si différents vont rencontrer des succès très différents? Moi, je trouve que cette question qui est relative pour moi à la théorie du chaos est absolument passionnante parce qu'on est en permanence à la conquête du Graal, hein, le produit que tout le monde va vouloir. Et c'est un phénomène qui est jamais déterministe. C'est-à-dire qu'on ne peut jamais dire à l'avance ce qui va fonctionner et dans telle proportion. Et si jamais vous présentez un produit que vous avez imaginé à quelqu'un et qui vous dit ça marchera ou ça marchera pas, il faut jamais le croire. Les réussites ne peuvent être pointées qu'a posteriori et jamais a priori. Alors, bon, je parle vite fait de l'école du design qui est la plus connue, hein, c'est l'école du Bauhaus à Weimar en 1920. Et Gropius, le fondateur de cette école, donnait à ses élèves des éléments extrêmement simples qui étaient du papier, de la colle et des ciseaux, et il disait débrouillez-vous avec ça. C'est-à-dire que quoique le design soit devenu au cours du XXe siècle, le design est d'abord une école de sobriété et de petits moyens. C'est pour ça que quand on me raconte que les designers seront des meilleurs designers quand on leur donnera encore plus de moyens, encore plus de matériaux, encore plus de technologies, je vois pas du tout comment ça fonctionne et je constate que ça ne fonctionne pas. Qu'une fois éduqué dans cette sobriété de moyens, on donne plus de technologies et qu'il y a un phénomène d'amplification, ça c'est possible. Mais à la base, le design, c'est une école pauvre, hein, qui se développe avec des petits moyens et du coup, beaucoup de créativité.
Est-ce que ce n'est pas aussi une manière justement de mettre l'imagination au défi ou de la laisser la plus pure possible pour pouvoir avancer ?
C'est exactement ça. C'est-à-dire, je pense que le surcroît des moyens va noyer le créateur. Il va plus savoir, notamment je me méfie vachement des couleurs, je me méfie vachement des nouveaux matériaux. C'est à peu près tous les 5 ans, on vous présente un nouveau matériau ou une nouvelle technologie. On dit voilà, ça va être révolutionnaire. En ce moment, je suis très prudent avec cette question d'impression 3D, je suis extrêmement prudent. Parce que il y a rien de plus journalistique que l'impression 3D. Si vous voulez faire un papier que les gens lisent, il faut parler d'impression 3D. Mais dans les faits, on produit à l'unité des objets extrêmement spectaculaires, mais il y a un côté so what, c'est-à-dire j'ai fait cette forme, voilà, ça me fait penser à la parole de Paul de Tarse, connu sous le nom de Saint Paul, tout est possible, mais tout n'est pas utile. C'est-à-dire qu'on va réussir à faire telle chaussure, alors tout le monde va dire ah c'est pour une chaussure spectaculaire au sens de la société du spectacle, mais finalement qui sera éthéré avec une fonction pas forcément pertinente et surtout qui va noyer à mon avis la créativité du concepteur dans des moyens dont il ne sait que faire et qui perdent finalement l'esprit créatif. Alors l'équilibre du design, bon ça je rabâche ça depuis de nombreuses années, mais faut toujours il va sans dire, mais ça va mieux en le disant, que la forme doit être agréable, hein, ce qu'on va appeler l'esthétique, la fonction, hein, c'est que l'objet créé doit être utile, et le prix doit être possible. Hein, donc le design va se comporter comme une synthèse entre le beau, l'utile et le possible, et il faut éviter de surfavoriser un de ces domaines-là. Hein, il faut, si on est à fond dans le beau, ben et puis plus tellement dans l'utile et plus dans le possible, on va dire qu'on est plus du côté de la sculpture. Si on est dans le possible et le beau et puis pas l'utile, on va être plus dans la décoration. Et à chaque fois, l'ennemi du design vient surpondérer un des trois pieds. Et du coup, on voit apparaître des avatars du mot design du genre ceci est du design écologique. Alors qu'en fait, par construction, puisqu'il part d'une pauvreté de moyens, le design est écologique. Ce qu'on dit, c'est « Ah, ça c'est assez bien, ça c'est du design fonctionnel. » Si le design n'est pas fonctionnel, ça n'est pas du design. Hein? Et extrêmement plus courant, dire « Voilà, ça c'est du design pas cher. » Et en fait, ce qui est cher ne peut pas être du design. La pensée de design combat ce qui est cher, prend des moyens, prend très peu de matériaux, très peu de moyens, et va faire des choses spectaculaires. Et puisque c'est à la mode de dire ça, d'un bilan environnemental extrêmement favorable. Pour moi, l'architecture, si vous voulez, la plus design, c'est les voûtes nubiennes dans les régions du Sahel, où ils vous prennent des briques, ils prennent de la terre avec de l'eau. Ils savent choisir exactement la forme de la voûte qu'il faut faire pour que ça tienne droit. Ils vous font des voûtes avec de la terre. Alors qu'en 2004, Paul Andreu, l'architecte du nouveau hall de Roissy, a fait une voûte en béton et qu'elle s'est effondrée et que ça a fait 4 morts. Donc je pense que le design est vraiment cette façon d'optimiser la matière, et on va voir un peu plus de lui donner des dimensions.
Mais dans un objectif précis, je crois.
Alors l'objectif, c'est la question qui se pose régulièrement, c'est qui dit ce qu'on va faire, qui va donner le cahier des charges. Alors souvent le cahier des charges est auto-administré. C'est pas le cas le plus intéressant, mais c'est le cas le plus tentant. C'est-à-dire que souvent on reproche pas mal aux designers de résoudre des problèmes qu'ils ont eux-mêmes posés. Je vais m'intéresser à ce sujet-là. Avec souvent des régressions, c'est-à-dire que la solution qui existait fonctionnait très très bien. Par exemple, ce plateau-là qui est là, il est très très beau, mais bon, il fait. Alors le designer va enlever un bord, alors, du coup, il y a un verre qui va tomber, où il va rajouter une poignée magnifique, mais en fait, il va plus pouvoir s'empiler. Donc souvent, le problème des designers, c'est qu'ils vont essayer de résoudre des problèmes qui ne se posent pas, inventer eux-mêmes leurs problèmes et donner des réponses aux problèmes qui sont eux-mêmes posés. Donc évidemment, la question du pourquoi changer ce qui existe déjà est une question fondamentale. Et oui, il doit y avoir un but, en tout cas, ce qu'on peut appeler une intention de conception. Alors, puisqu'on est moi je dis qu'a priori, moi je suis, ça m'intéresse beaucoup d'être là parce que je suis pas un fan du monde de l'imaginaire. À la base, hein, pour moi, j'ai toujours trouvé ça un peu ésotérique, c'est pour ça que je posais avant la question de la science tout à l'heure. Limite, c'est moi, quand j'étais petit, il y avait chez le coiffeur, je crois que c'était du Druillet, c'était Sloane, comment il s'appelle Sloane Lone Sloane
Le voyage de Lone
Sloane. Lone Sloane, Sloane, je lis Sloane, vous voyez, je l'ai plus lu que entendu. Et donc, moi, il y a des espèces d'univers avec des filles à poil dans des bulles et tout ça. Et donc, moi, ça m'a toujours fait un peu peur. Et donc, c'était a priori pas ma tasse de thé. Mais il faut bien considérer que si on ne commute pas par l'imaginaire, la création n'est pas possible. C'est-à-dire que, alors je sais bien, parce que moi je suis de formation ingénieur pur sucre, j'ai complété un DEA physique, enfin je vous raconte pas. L'ingénierie telle qu'on la pratique en fin du 20e siècle, début du 21e, n'est vraiment pas du tout empreinte d'imaginaire. Donc moi je considère justement que le designer a cette capacité à commuter par l'imaginaire, c'est-à-dire qu'il va se balader, il a un problème à résoudre, il va se balader dans l'imaginaire et après, c'est très important, retomber sur le plancher des vaches, parce que c'est comme ça que ça se passe. Moi, je rencontre beaucoup de fournisseurs, parce que je suis un grand malade du Made in France, qui se plaignent que les designers leur apportent des pièces plastiques qui sont pas injectables ou des pièces en métal qu'on peut pas découper parce qu'elles sont trop petites, trop grandes et elles ont pas la bonne épaisseur, pas la bonne matière. Donc, il faut absolument revenir dans le monde réel. Ce pourquoi j'encourage, je l'ai écrit dernièrement, à ce que les études de design soient fondées, soient notamment ouvertes à des éléments qui auraient plusieurs CAP extrêmement spécialisés, et que fondés sur la multiplication de ces CAP et de ces compétences extrêmement concrètes puissent transcender les règles de l'art et nous faire des choses vraiment très intéressantes, mais qui restent possibles. Alors pour le rôle de l'imaginaire dans le processus créatif, contrairement à ce qu'on pense, serait sur un problème donné, pour trouver une solution intéressante, non pas de chercher des nouvelles voies de liberté, mais des nouvelles voies de contrainte. C'est-à-dire, je reprends l'exemple du plateau. On veut créer un plateau. Comment améliorer ce plateau? Ben, on va pas chercher de liberté, on va dire quelles sont les contraintes qui s'appliquent à cet objet, et on va essayer de travailler à partir de ces contraintes, non pas en les contournant, mais en les transformant en opportunités pour arriver à avoir des meilleurs objets. Par exemple, faire qu'un plateau soit empilable, faire qu'il se tache moins, faire qu'il soit plus facile à nettoyer. Donc, moi, ce qui m'intéresse quand je crée un produit, quand je trouve qu'un produit est pas très bon, quoi, je l'ai fait comme ça et pas très bon, ben, je vais essayer de voir, de lui rajouter de la contrainte. Alors, une contrainte qui est très facile à ajouter, c'est la contrainte du prix. C'est de dire comment faire pour qu'il coûte moins cher. Il ne s'agit pas qu'il soit moins cher en prenant un moins bon matériau ou en faisant un truc moins solide. Mais comment, toutes choses égales par ailleurs, je peux un peu transcender la matière pour qu'il soit pour mettre moins de matière justement et qu'il soit que l'objet soit plus performant. Ça m'intéresse beaucoup et je pense que justement le designer ou l'inventeur doit imaginez des contraintes. Ça paraît un peu bizarre parce qu'en principe les contraintes elles s'imposent à vous, mais en fait non, faut leur courir après parce que ça se comporte comme un phénomène anti-scientifique au sens où moi quand je faisais de la physique en première, deuxième, troisième année d'ingénieur, qu'est-ce qu'on faisait? On prenait le problème du sachet de sucre qui tombe et puis on disait bah voilà on va considérer que c'est une masse ponctuelle, on va considérer que le champ est uniforme, on va considérer qu'il n'y a pas de frottement de l'air, c'est-à-dire qu'en fait le physicien, parce que les outils mathématiques et de physique sont je dirais pas un peu limités quoi, mais ne sont pas aussi performants qu'on le prétend. Va chercher à restreindre le périmètre des contraintes et à faire évoluer son engin dans un monde idéal. Nous, au contraire, le design, il va chercher, ben oui, il y a du frottement de l'air, oui, c'est pas une masse ponctuelle, oui, il y a un champ qui est pas uniforme, et donc essayer au maximum de chercher les emmerdements, parce qu'il sait que derrière chaque emmerdement, il y a une opportunité qui va pouvoir transformer, dit, ah, tiens, c'est bizarre, oui, comme il est pas, ben, il se ralentit un peu à la fin, ou je sais pas quoi. Et donc, se cramponner à chaque fois qu'il voit un truc qui est pas bien, le transformer, le muter, et muter, la nécessité, c'est-à-dire la contrainte, en opportunité, ce que j'appelle dans mon livre, transformer la nécessité en vertu. C'est-à-dire que on a quelque chose qui s'impose à nous. Ben, contrairement à l'ingénieur qui va créer une usine à gaz autour de ce problème pour le gérer et s'en éloigner, en le rendre insignifiant, et ben le créateur, l'inventeur, le designer, comme vous voulez, va prendre ce problème et en faire une opportunité. Et ça, je trouve que c'est un processus créatif qu'il faut absolument enseigner et encourager. Parce que sinon, on fait un monde invivable hein, et très pollué. Parce que, en général, les solutions trouvées par les ingénieurs, une fois de plus, posent plus de problèmes qu'elles ne vont résoudre. La voiture, qui était faite pour se déplacer d'un point A à un point B, outre le fait que finalement, avec la vitesse moyenne en ville, le fait de plus en plus lentement, n'est pas une façon très rationnelle de se déplacer parce qu'elle génère des contreparties supérieures aux bénéfices. Et en particulier, je recommande de jamais trouver une solution qui puisse résoudre un seul problème parce que si vous avez une solution qui résout qu'un seul problème, vous allez faire apparaître de toute façon des régressions et votre solution ne sera pas aussi performante que vous l'avez voulu. Alors ça c'était pour le rôle de l'imaginaire. Là je prends une métaphore mathématique pour l'utilisation de l'imaginaire, c'est les nombres complexes, hein. Je vais faire très rapide, je ne vais pas vous donner des boutons sur cette question, c'est Jérôme Cardan qui cherche à résoudre l'équation du troisième degré et qui est bloqué. Alors il semblerait qu'il ne soit pas le seul inventeur de cette solution, de la solution de cette équation. Et qui a une idée incroyable, c'est qu'il dit il y a un moment dans le calcul où je dois inventer des nombres qui n'existent pas.
C'est marrant, c'est Nicolas, parce que ouais. C'est une manière de littérature de l'imaginaire dont on parle aussi aujourd'hui. Je dirais que la littérature de l'imaginaire, peut-être que la littérature dite générale, est la même chose que les nombres imaginaires sont des nombres. Entre autres, c'est-à-dire qu'il s'agit à chaque fois non pas de partir dans un monde imaginaire pour y rester, mais c'est aussi une manière de renouveler le regard, de permettre de revenir au réel avec des solutions qu'on n'avait peut-être pas avant.
Absolument, de commuter. C'est très intéressant parce que souvent les mathématiciens, on les pense un peu secs, hein. Les physiciens, on va les dire, ils sont un peu secs. Bon, c'est pas. Et en fait, ils ont créé des nombres imaginaires. Je trouve cette expression, elle est fabuleuse. Alors, ils sont repris après, ils ont appelé ça le nombre complexe, pour pas faire trop glamour. Et donc, mais ce mot de nombre imaginaire, moi, je trouve qu'il est, il est magnifique.
Sauf
quoi.
Que ce serait un nombre imaginaire, on l'apprend à l'école en seconde. Non ?
Alors, on l'apprenait en seconde, après en première, et là, c'est uniquement pour certains terminales qu'ils. Hein, comment? Parce que c'est un peu complexe d'ailleurs, ils ont appelé complexe. C'est dommage d'ailleurs, parce que je trouve que il pourrait être appris allez, dès CE1. Je suis sûr que on pourrait apprendre. Bon, si c'était moi qui devais enseigner les maths, je prendrais pas du tout le problème à la base. Je ferais différemment, mais on m'a pas encore posé la question. Donc ça c'est vraiment très intéressant. Hein. Je commute par des nombres. Hein, je vous raconte, c'est comme un mec qui dit voilà, j'ai un nombre. Qui multiplié par lui-même donne moins 1. Si vous cherchez bien, ben voilà, il crée vraiment et du coup c'est des nombres à deux dimensions, hein, puisque c'est a plus ib. Il avait un problème à une dimension, il fabrique un truc à deux dimensions. Moi, je trouve ça absolument dingue et je suis très admiratif, hein, de ces grands scientifiques qui étaient là avec une plume d'oie et un papier pourri là et qui vous inventait des concepts comme ça. C'est, je trouve qu'il y a une histoire glorieuse de la science. Elle a perdu son innocence plus tard, mais il y a quand même ça a quand même été une sacrée aventure. Alors l'ennemi du designer pour moi de ce fait, hein, ça va être l'imagination non pertinente. C'est-à-dire moi j'ai quand même pour les cours de design que je donne des trucs là, voilà, on va vous faire cette telle forme, alors on fait une espèce de justification. Tu disais tout à l'heure le mot de gratuit, hein, de gratuité. Moi j'ai horreur de la gratuité, quoi. C'est la gratuité, c'est le vol, comme disait l'autre. Ce qu'on appelle des formes gratuites, hein, pourquoi est-ce qu'on va faire cette forme? Ben voilà, parce qu'il y a une signification, une sémantique de l'objet. Enfin, le monde académique du design a inventé tout un tas de billevesées délirantes. Pour créer des volumes d'enseignement, alors qu'en fait tout ça pourrait être enseigné en un quart d'heure et le reste ce serait la pratique. Alors comment distinguer l'imagination non pertinente? Alors j'ai pas dit impertinente, je pense que non pertinente ça veut pas dire je parle sous le contrôle. David, est-ce que non pertinente c'est l'équivalent de impertinente?
Non.
Comme si, non, bah, merci. Merci pour ce contrôle. Et donc, ben moi, je pense que c'est une question de bonne foi. Hein. Une question de bonne foi. Est-ce qu'on est de bonne foi? Ben ça, c'est très intime. Hein. Est-ce qu'on est de bonne foi quand on travaille sur l'imaginaire du produit? Bon, tout ça, c'est des observations longues et puis des éclairs de quelques secondes qui font que faut pas trop chercher. Quoi, faut manipuler les concepts et les matières et puis la bonne idée, elle vient. Dans une forme de condensation.
Comment tu travailles concrètement, Nicolas? Tu as un atelier?
Au quotidien, moi, je crée très peu. Je passe très peu de temps. Je prototype très peu, d'ailleurs. J'ai un peu la matière dans les mains. Et alors, je ne sais pas dessiner. Je précise, je suis incapable de dessiner quoi que ce soit. Je dessine à peu près aussi bien que ma fille Alma qui est là-bas, dans le coin de la salle. Je ne sais pas dessiner, donc je pense. Par contre, j'imagine bien, je prends la matière et après je fais le plan technique directement. C'est un peu curieux. Et donc, du coup, mais ça, c'est des processus. Ce passage de j'ai la matière dans les mains, je sais à peu près ce que je fais et je fais le plan que j'envoie à l'usine. On est bon à ça un ou deux jours par mois. Le reste du temps, j'envoie des factures, je trie des papiers, je vais voir des fournisseurs, je vais voir des clients. Mais la condensation créative se fait en très peu de temps. Faut noter, voilà. Je note. En trois mots, ce que je vais faire, et puis voilà, quand je suis bien concentré, je le transforme en produit. Alors, j'avais dit que les produits que je faisais, que j'ai vendus en 4 exemplaires, en 5 exemplaires, j'aurais dû faire faillite depuis longtemps, mais en fait, les produits que j'ai vendus en 5 exemplaires, j'en avais produit 6. Donc, j'en ai un en stock, si vous le voulez, d'ailleurs. Et en fait, comment je fais, c'est que régulièrement, dès que j'ai une idée, bon, donc je la note. Dès que j'ai un peu de temps, je fais un plan, je fais tout de suite le plan technique. J'accumule les plans techniques dans un dossier. Et puis tous les 4 mois, je fais ce qu'on appelle un amalgame, c'est-à-dire je prends une grande plaque de métal et j'envoie un plan immense avec une dizaine de produits en plusieurs exemplaires sur la plaque. Et j'envoie ça à mon fournisseur qui m'envoie les pièces quelques jours après, découpées. Alors je les tors s'il y a besoin de les reprendre, je les peins et puis je les mets en vente. C'est-à-dire qu'en fait, je peux avoir des protos nickel en un ou deux exemplaires. Sans que ce soit des protos qui coûtent très cher. Donc je peux quasiment gagner de l'argent en vendant un exemplaire.
C'est pas là que l'imprimante 3D pourrait t'aider, non ?
Ben, l'imprimante 3D, elle est très sympa pour prototyper et faire des beaux prototypes, mais elle n'est pas associée à un système de production industrielle. Ce qui peut ne pas être un problème. Hein. Pendant longtemps, la planète a fonctionné sans industrie et elle fonctionnait, on va finir par dire qu'elle fonctionnait pas si mal. Mais si vous voulez, cette bouteille d'eau imprimée en 3D, elle vaut 150 euros. Injectée telle que je connais les gars qui font ça, on est peut-être à 2 centimes et demi, quoi. Donc il y a un facteur énorme de prix entre l'exemplaire imprimé en 3D et puis l'exemplaire produit dans un processus industriel normal. Sans compter que l'imprimante 3D peut vous fabriquer des pièces qui sont infaisables avec un processus industriel ordinaire. Donc vous n'êtes pas plus avancé, quoi. C'est ça d'ailleurs ce qu'on aime dans le 3D, c'est qu'on peut vraiment faire tout. Et donc on en profite pour faire n'importe quoi. Et on peut faire une bille qui est incluse dans une autre bille et puis on entend tac tac tac. Alors que la bille est née à l'intérieur de la bille en plastique. Donc voilà, on peut vraiment faire des trucs très très marrants. Je suis pas du tout pour qu'on enseigne à l'école. Je pense que moi je dis beaucoup. Alors si ce que je dis, justement pour répondre à cette question, je dis oui, je fais beaucoup d'impressions en 2D. À quoi c'est nouveau, ça vient de sortir. Oui, non, vous allez voir. J'imprime en 2D parce que justement, et merci David de cette question. J'imprime en 2D. Alors j'ai réfléchi, ils pensent qu'ils ont tous une imprimante 2D en fait chez eux. Nous avons une imprimante 2D. Personne n'a d'imprimante 1D. Je remarque. Ça n'existe pas. Voilà un concept à travailler. Alors, alors.
Si tu parles aussi de Victor Appel, ouais. Parce que ce dont tu parles, ça de manière, ça a fait c'est le sujet d'un roman bien connu des amateurs de SF qui s'appelle Flatland, d'un mathématicien anglais qui s'appelle Henry Nabot, et qui Flatland.
Qui faisait un monde plat, oui.
Voilà, Flatland, comme le titre l'indique, c'est en anglais, c'est un monde plat, et c'est l'histoire d'un carré, en fait, qui habite un monde à deux dimensions, et qui va faire de la prison. Parce qu'il raconte une chose totalement folle, c'est-à-dire qu'un jour, il prétend avoir reçu la visite d'un autre être, d'un cube, qui viendrait d'un monde de trois dimensions, et il a commencé à plaider auprès de son monde à 10 dimensions l'existence d'un autre monde avec une dimension supérieure, et les gens le prennent pour un fou, donc l'enferme. Et ce carré, c'est très bien qu'il y a d'autres mondes qui existent, et lui-même, un jour, il a visité un monde qui s'appelait Pointland, et donc un monde à une dimension.
Alors, on y est. Alors, j'appelle ça le design selon truc, vous voyez, je suis pas mégalo du tout. Et je sais pas parce que j'ai bien étudié l'histoire de Walter Gropius, le fondateur du Bauhaus. Hein, son expérience va avoir un siècle bientôt. Et lui, il a dit voilà, on fait du beau, l'utile et du possible, et tout ça. Et puis ça a dérivé. Aujourd'hui, ça sert à quoi le design? Ça sert beaucoup à vendre des meubles à des riches pour qu'ils soient sûrs que les pauvres n'aient pas les mêmes. Quand on pense au design spectaculaire, très, très médiatisé. Pour moi, vraiment, l'art design, c'est donner des dimensions à la matière. C'est-à-dire, je gagnais une dimension. C'est-à-dire, je prends un fil, j'en fais un volume. Vous faites un ressort avec un fil. Vous obtenez à partir d'un truc d'une dimension, vous obtenez trois dimensions. Comment? Non, on considère que le diamètre est nul comme en physique, ouais. Mais il est négligeable. Oui, il y a un petit peu de matière, mais disons que voilà, globalement, on prend une plaque, quand vous faites de l'origami, vous passez de deux dimensions à trois dimensions. Et ça, je l'explique, je le répète, je dis à mes élèves, tout ça, hein, c'est imbattable. Quand quelqu'un qui sait faire ça, pour moi, c'est le dieu, c'est vraiment comme ça que ça marche. Et après, on peut mettre n'importe quel processus industriel derrière. Si vous arrivez à émulsionner, si vous voulez, les dimensions, ça fait forcément des objets qui vont être rentables et qui vont être très raisonnables du point de vue de la production. Donc cette question de la dimension pour moi est vraiment fondamentale. Tu avais une question, non?
C'est pas une question, c'est plus une remarque. Enfin, c'est ce que je disais déjà tout à l'heure. Je trouve qu'il y a énormément de points communs avec les créateurs de l'imaginaire qui, effectivement, cherchent toujours à multiplier les points de vue autour de la réalité ou, comme je disais, renouveler le regard ou permettre un nouveau regard sur le réel. J'ai l'impression
que ce sont des
problématiques qui sont très proches.
Et alors là, on pourrait dire, que... Pourquoi la suradjonction de moyens est mauvaise pour le créateur, quel qu'il soit? Pour moi, c'est un principe, mais on le constate. L'amélioration des appareils photo n'a pas fait forcément des meilleurs photographes. Ni la démocratisation de la photo n'a pas fait forcément des meilleurs photographes. C'est que, en fait, si vous donnez beaucoup de moyens, qui sont par définition des moyens réels, informatique, impression 3D, finalement, vous, contrairement à ce qu'on pense, on plaque le créateur dans le réel. C'est-à-dire qu'on lui empêche d'aller dans l'imaginaire. Si vous avez juste une feuille blanche et des ciseaux et de la colle, comme le proposait Gropius dans le Bauhaus, vous êtes obligé de commuter dans l'imaginaire. Sinon, de votre feuille, il sent rien. Moi, je donne ces exercices-là à des ingénieurs. Ils ont un A4 en métal. Je leur dis, ouais, dessinez un A4, moi, on va vous le découper en métal et puis vous le recevrez dans 3 semaines. Et ce qui est très intéressant, c'est à partir de cet énoncé très simple, la diversité des productions. Tandis que si on donnait beaucoup de moyens, moi, pour moi, on aurait une convergence, ils se fabriqueraient tous la même babiole. Donc en fait, on a une diversité considérable de productions parce que on limite les moyens à la base et puis on a une création sans échappatoire parce que, alors, il y en a qui me disent, ah, est-ce qu'on peut couper, est-ce qu'on peut souder, est-ce qu'on peut ramener une pièce en plastique? Je dis, non, je veux pas de ces trucs-là. Prenez une feuille de métal et vous la découpez et créez-moi de la valeur avec ça. Et je trouve qu'on a c'est une douleur, parce que le monde, le capitalisme, puisqu'il faut bien prononcer ce mot à un moment ou à un autre, n'a pas structuré le monde comme ça. N'a pas dit, c'est pas un message commercial de dire débrouillez-vous avec ce que vous avez. Enfin, vous pouvez bien regarder les pubs, il n'y a aucun moment, il dit démerdez-vous avec ce que vous avez. Vous avez déjà entendu? Non, jamais. La création à faible moyen est anticapitaliste par nature même. Elle est libérale, mais anticapitaliste. On pourrait rentrer sur un autre débat. Je voulais montrer juste mon bureau. Je suis tellement content de mon bureau. J'ai pris la photo en panoramique hier. Ça vient un peu en contradiction avec la sobriété de moyens, si vous voulez. C'est juste pour la phrase « Si un bureau encombré est le signe d'un esprit encombré, de quoi un bureau vide est-il le signe ?» Donc, c'est l'histoire d'avoir un peu tout sous la main. Il y en a un autre comme ça, c'est le bureau du créateur de Toy Story. Voilà, où il a toutes ses petites babioles. Bon, c'est mieux rangé que...
C'est
Lasseter, oui, absolument. John Lasseter. Alors, pour conclure, après, s'il n'y a pas de questions, je vous conseille deux excellents livres qui sont vendus à la sortie. Exit Through the Gift Shop. Ma retraite à 29 ans, qui a quelques années, mais qui est toujours d'une grande fraîcheur littéraire. Et le livre qui a été livré ce matin. Alors, si vous achetez aujourd'hui ce livre, sachez que vous achetez un livre qui n'est pas encore déposé à la BNF. Et le dépôt légal, donc vous achetez un livre pirate, en fait.
Normalement, surtout si vous l'achetez aujourd'hui, Nicolas peut vous le...
Oui, faire une dédicace. Et puis à visiter la boutique du futur à Montrouge, ouvert du mardi au samedi, 11h, 14h, 15h, 19h. Merci David pour cette invitation.
Merci d'être venu, merci à vous aussi.